Donc, deuxième livre de Samuel, chapitre 11, versets 23-27. Est-ce que quelqu'un veut lire avec une bonne voix, hein, bien haute, pour qu'on entende sur l'enregistreur?
Alors, le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur les serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. » Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel.
Donc voilà, vous avez ici l'exemple d'une mort préparée d'avance par David. David a fait tomber Uri, un de ses braves soldats, officiers, dans un guet-apens. Vous voyez qu'il banalise le fait, qu'il s'apparaît pour un fait courant, comme si ça passait à Euronews à peine. Hein. On en a tous les jours des trucs pareils, qui sont en fait préparés d'avance par les gens. Tous ces morts qu'on voit, en fait, c'est préparé. Ce n'est pas accidentel. Et ça s'appelle donc de l'iniquité, de l'abomination dans la Bible. Ce n'est pas simplement au rang du péché. C'est quelque chose de délibéré, de créé, de mis en place, alors qu'on sait bien que Dieu n'en veut pas. C'est contraire à sa volonté. Donc, c'est un acte de désobéissance très profond. Parce qu'il est quand même mis dans les 10 commandements, dans Exode chapitre 20, tu ne tueras point. Et deuxième péché, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Troisième, tu ne commettras pas d'adultère. Et en fait, David avait déjà aperçu cette femme qui manquait de prudence parce qu'elle se lavait sur le toit de sa maison sans rien sur le dos. Et pratiquement, si vous allez une fois à Jérusalem, que vous voyez l'endroit, vous pouvez vous imaginer, la maison de David était plus haut, et donc il pouvait tout voir. L'impudicité de cette femme a amené, bien sûr, chez cet homme, une passion, chez David, une passion débordante, folle, qui n'a pas contrôlé, et tout de suite, il y a cédé entièrement. C'est évidemment une chose grave, partagée par la femme et par l'homme, bien sûr, puisqu'ils ont couché ensemble, et elle est enceinte. Et alors pratiquement, il fait revenir l'officier, et il essaye que l'officier aille dormir avec sa femme, mais cet officier est au combat, il ne veut pas. Donc il reste avec ses hommes, et il ne veut pas retourner dans son lit pour 2-3 jours, ce qui aurait fait laisser croire à tout le monde que l'enfant que portait cette femme était de son mari. Mais comme ce n'est pas le cas, que tout le monde était témoin que le mari n'était pas dans son lit, eh bien, donc on savait qu'il y avait anguille sous roche, qu'il y avait donc eu adultère de la part de cette femme, et ce n'était pas compliqué un jour de découvrir le poteau rose que David avait commis l'adultère. Donc, quand il a vu que ça ne marchait pas, que Uri ne retournait pas dans son lit conjugal, par sens du devoir, il lui a tendu un traquenard avec la complicité du chef de l'armée. Et donc il banalise le fait pour que le chef de l'armée ne se sente pas fautif, ne porte pas de culpabilité. Vous savez, la désobéissance coûte cher dans la vie. Et donc dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, versets 22 à 23, il y a quelque chose d'extrêmement lourd à lire qu'il faut bien connaître quand on est croyant. Premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. Quelqu'un veut-il lire? S'il vous plaît. sans tarder.
Samuel dit : L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la grâce des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi.
Donc vous voyez ici donc clairement qu'on peut faire des sacrifices tant qu'on veut et des prières. S'il y a désobéissance, on est au même rang que ceux qui font de l'occultisme, de la divination. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas seulement que la désobéissance, il y a la résistance. La résistance, c'est clairement quelque chose qui, parfois, ne va pas jusqu'à une désobéissance déclarée, ouverte. Mais c'est un état de désobéissance interne, et c'est un état d'endurcissement qui se crée et qui fait qu'on a des jugements et des paroles ou des omissions contraires à la parole de Dieu. Faites bien attention à tout cela. Vous savez que dans Hébreux, il y a plusieurs textes où il est mis « Attention, n'endurcissez pas votre cœur, sous peine que le péché vous séduise. » C'est dans Hébreux chapitre 4, verset 6, Hébreux chapitre 3, verset 13, verset 7 et verset 15. Quatre fois, c'est répété. Et pour David, il est évident qu'il connaissait la volonté de Dieu, qu'il connaissait le cœur de Dieu, qu'il connaissait sa personne. Il a vu Dieu plusieurs fois dans sa vie, tout comme Salomon. Donc, la grâce était sur sa vie et regardez ce qu'il en a fait. Hein? Donc, c'est quelque chose de très important qui a touché la vie de Samuel et qui peut permettre de comprendre certaines choses qui se disent dans ces psaumes, etc. Alors, nous allons essayer de continuer à progresser dans la réflexion. Regardons dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, l'intervention d'un prophète. Et si quelqu'un veut lire, deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 1 à 12, le verset 10 étant le plus important. À 12.
L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit : Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain et buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan : L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David : Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi as-tu donc méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel : Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle, et à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil.
Bien sûr, David dit au verset 13 à Nathan : J'ai péché contre l'Éternel. Nathan dit à David : L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel, fais blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Donc, nous voyons clairement qu'il y a ici l'annonce de l'iniquité d'Absalom sur le temple, sur Absalom qui un jour va se révolter contre son père et va prendre toutes les concubines et les violer publiquement. Donc, nous voyons que ça fait partie de la sanction divine. Par expérience, je dois vous le dire, il faut faire très attention au péché d'adultère. Il est un des péchés qui a des conséquences les plus graves dans les vies des familles. Je ne dis pas que à 100% ce que je vais te dire se réalise, mais au moins à 80%. En général, quand un conjoint a commis l'adultère à plusieurs reprises avec quelqu'un, il y a des morts chez les enfants avant la mort des parents. Il y a un ou deux enfants dans une famille qui décèdent avant les parents. Et ne croyez pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Dieu n'est pas en question. C'est le péché de la personne qui est en question qui a ouvert la porte à Satan sur la famille. Quand on ouvre la porte à Satan, il fait des ravages. Quand on ne veut pas qu'il y ait des ravages dans sa famille, dans la descendance jusqu'à 3-4 générations, on tient la porte fermée, on obéit à Dieu. Surtout si on est prévenu. Si on est complètement ignorant de la loi divine, ignorant de tout ce que Dieu a enseigné, c'est encore autre chose. Quoique, il y a des conséquences aussi. Et trop souvent, des gens se mettent à pleurer en disant « Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Pourquoi est-ce que ça existe ?» etc. Et ils n'ont pas vu leur péché. Ils n'ont pas vu l'action de Satan. Ils n'ont pas vu leur responsabilité première. Chacun de nous, dans sa vie, a toujours eu et aura l'occasion de l'adultère. Je le crois. Tôt ou tard, ça se présentera, si ça ne s'est pas encore présenté. Et là, la question se pose. Qu'est-ce que je fais? Nous avons des moments de faiblesse importants et nous avons parfois, dans les couples, des moments très difficiles où rien ne fonctionne bien. Et nous avons toujours l'impression que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté. J'ai vu plusieurs fois des gens, soit des hommes et des femmes, s'adonner à l'adultère avec quelqu'un d'autre qui était moins poli, moins bien éduqué que leur conjoint ou leur conjointe, et moins joli. C'est même pas une question de beauté ou d'élégance ou de distinction. C'est une question de souillure. L'homme recherche, la femme recherche la souillure. Nous avons en nous de l'amour pour la souillure, pour le péché. Il faut se méfier de notre péché, de notre nature pécheresse. Et c'est radical. L'intelligence, c'est d'avoir de la haine pour le péché, la vraie intelligence. Et savoir en plus qu'on expose, dans la descendance, des gens à une mort prématurée, parce que Satan adore ça, il adore la mort. Et il adore surtout, en plus, la souffrance qui règne alentour, et la révolte de certains qui n'y comprennent rien, qui s'en prennent à Dieu, par l'amour, par le fait de l'amour. Le marécage de Satan. Il nous est souvent offert suite à des péchés que nous avons laissés s'installer dans nos vies. Alors, il faut faire attention, les amis, et nous voyons ici que Nathan a des paroles dures. C'est pas qu'il les veut dures, il aime David, il va rester toujours avec David, hein. Mais il annonce la mort de cet enfant qui est dans le ventre de Bathsheba. Ensuite, il annonce l'épée sur la maison de David. Hein. L'épée, oui, malheureusement. Et regardez dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24. Hein. Au chapitre 24, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Il excita David contre eux en disant « Fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et puis après, qu'est-ce qu'il va y avoir à cause de ça? Plus de 60 000 morts. Vous savez que quand on est enfant de Dieu, hein, je parle ici non pas parce que nous serions comme dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous avons connu Jésus, nous savons que Jésus est mort à la croix pour chacun de nous. Et que Jésus nous a pardonné gratuitement nos péchés et nous a sauvés. Nous savons que Jésus donne le Saint-Esprit à celui qu'il aime. Parce que l'être humain est incapable de combattre ce péché redoutable qui conduit à l'enfer et qui conduit même sur terre à un enfer réel sur terre pour 3-4 générations. Donc le Saint-Esprit est donné comme une puissance et aussi comme un consolateur. Un consolateur pourquoi? Parce que le plaisir du péché, on ne l'a plus. Il nous faut le plaisir de Dieu. Il nous faut le plaisir d'une vraie relation avec Dieu. Les plaisirs trompeurs du péché sont très nombreux, très séducteurs. Et ils nous tirent vers le bas. Mais la consolation du Saint-Esprit, c'est d'être en paix. Je fumais, j'arrête de fumer, je n'ai aucune torture. Je buvais. Et tout d'un coup, j'ai pris la décision, le Seigneur m'a aidé, je n'ai aucune torture, je n'ai aucune séquelle. Je me droguais, c'est arrêté. Je faisais telle et telle chose, c'est arrêté. Progressivement, j'ai vu que Dieu m'assistait par son Saint-Esprit et me dirigeait. La consolation, le consolateur est là. Et la deuxième chose, c'est que le consolateur nous attache de plus en plus au Seigneur, à la personne du Seigneur. Par reconnaissance pour son amour pour nous, pour sa présence aussi, pour sa parole, et puis pour les biens à venir, le royaume à venir. Donc, forcément que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous souhaite pas l'épée qui dévore 63 000 personnes dans le peuple. Et il faut faire attention. Il faut faire attention. Je parle ici pour des chrétiens qui ont réellement le souci d'aimer le Seigneur et de lui obéir. Mais si vous avez des églises, vous avez des systèmes religieux, qu'ils soient catholiques ou protestants, orthodoxes, qui ont aimé le péché, regardez par exemple toutes les guerres depuis 20 siècles, et les dernières, 14, 18, 40, 45, regardez tout ça, il s'ensuit quoi? Il s'ensuit énormément d'iniquité dans nos pays. Et il s'ensuit énormément de choses que dont la porte a été ouverte par nous, avec la bénédiction des chefs religieux, avec leur lâcheté, avec leurs fausses paroles de faux prophètes. L'Europe est plus bas que tout. J'ai vu des photos en Grèce où il y a des femmes qui dormaient dans les fossés avec les enfants. En Grèce, en Macédoine, dans les fossés, il y a des détritus et tout ça, ben oui, ils passent tellement en tapis. Elles sont là, elles dorment, elles sont épuisées, et les gosses. Dans tous ces réfugiés qui trimballent là, comme maintenant on vient de bloquer, demi-tour, arrière toutes, 40% sont des enfants, la plupart sont malades maintenant. Voilà le résultat d'une Europe compromise contre Dieu, qui a aimé le péché jusqu'à la tronche, dans toutes ses lois, dans toutes ses guerres, dans toutes ses fabriques d'armes. Voilà, ils vont jusqu'à l'iniquité. Alors, le châtiment de Dieu sur le cinquième empire de Daniel, fait de terre et d'argile, de bronze et d'argile, le cinquième rempli d'iniquité et de courte durée, va être brisé par le rocher qui descend de la montagne et qui n'est fait d'aucune main d'homme. Ce cinquième empire est né le 30 novembre 95 à l'île de Crète. Et regardez comment il se comporte, la parole de Dieu. Attends, cet empire, elle sera dure, comme elle était dure sur David et sa descendance. Alors, au verset 11 et 12, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, vous voyez bien que, deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, versets 11 et 12, Mmh. Nous avons un homme intègre. Nous avons un homme intègre qui ne veut pas rentrer dans la maison, qui sait que l'Arche d'Alliance n'est même pas dans un temple, elle est sous des tentes, que tous ces hommes sont sous des tentes et exposés au combat. Il ne veut pas rentrer chez lui. Il veut être fidèle à son poste. Il a tué un juste. Il a tué un juste. Même pas un tordu. C'est même pas un tordu. Il a tué un juste. Il a piqué sa femme en plus. Il n'avait pas assez de femmes? Si, il en avait plein. Est-ce que Dieu lui a dit d'avoir autant de femmes? Premier livre des Chroniques, chapitre 3. Dieu a toujours dit que c'était un homme et une femme, pas plus. Il n'y a pas d'exception à cela. Donc, premier livre des Chroniques, chapitre 3. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron, le premier-né, Amnon, d'Akinoam de Israël, le second, Daniel, d'Abigaï de Carmel, le troisième, Absalom, fils de Maka, fils de Talmaïl, roi de Geshur, le quatrième, Adonijah, fils de Haggit, le cinquième, Shephatia, d'Abital, le sixième, Jérétréam, d'Égla, sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron, il régna là 7 ans et 6 mois, il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Shimea, Shobab, Nathan, Salomon, 4 de Bathsheba, fille d'Amniel, Jihar, Elishama, Eliphelet, Noga, Nefek, Shafia, Elishama, Elia et Eliphelet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Tac. Et pourtant Dieu avait dit un homme, une femme. Il a eu plein de bénédictions. Et pourquoi il fait ça donc? Et pourquoi il fait ça? Et pourquoi est-ce que dans les églises de l'Apocalypse, tout de suite on voit qu'il y a les Nicolaïtes, sauvés par grâce, mais je fais ce que je veux avec mon corps. Faites attention à la souillure de votre corps et de votre âme. Faites attention. Dieu ne rigole pas avec ça. Alors, regardons dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 13. Au chapitre 13. Donc au chapitre 13, Absalom, qui est un des fils d'une des femmes de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Donc Amnon, qu'est-ce qu'il va faire dans le chapitre 13? Il va faire un piège, il va faire semblant d'être malade, il va se faire soigner par Tamar, sa sœur, puis il va la forcer, la violer. Et puis, Absalom est fâché, il finira par tuer Amnon. Et puis de là, David sera fâché et Absalom s'enfuira pendant 2-3 ans. Et finalement, par une espèce de tolérance, le papa David fait revenir Absalom, mais lui dit de rester à demeure dans sa maison, résidence surveillée. Et puis un jour, Absalom plaide. Il plaide pour sortir de cette maison parce qu'il en a marre de rester enfermé dans sa propriété. Et quand David lâche, accepte, Absalom invite plein de gens d'Israël dans une ville un peu plus loin et il va créer un complot. Au chapitre 15, Absalom se procura un char, des chevaux, 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme avait une contestation, il se rendait et se rendait vers le roi pour obtenir un jugement. Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ?» etc. Donc, voilà qu'Absalom intercepte toutes les affaires juridiques et judiciaires du pays pour les traiter lui-même et couper l'herbe sous le pied, c'est-à-dire l'autorité de législateur et de juge à son père. Et donc, et les gens sympathisent, sont très contents. Les gens sont contents. Alors, au verset 13, quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'il va y avoir un repas. Et puis, tout d'un coup, Absalom va envahir Jérusalem. In extremis, David fuit. Il fuit. Et quand David fuit, sur la colline du Mont des Oliviers, il y a un homme, au chapitre 15, verset 32, qui va l'insulter. Hushaï l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée, la tête couverte de terre. Ça, c'est un homme, un brave homme. Ce n'est pas celui-là qui insulte. Mais après, il y a un autre homme qui va arriver. Et au chapitre 16, verset 9, c'est Abishai. Il va s'en prendre à David. Il va jeter des pierres. Il va l'insulter. Ça va durer des heures. Et David pourrait dire à ses hommes, tuez-le, c'est bon, c'est réglé. Non. David sait que ce qui arrive là vient de son péché avec Bathsheba et de son meurtre avec Uri. Il le sait parce que le prophète Nathan lui a dit. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que David va laisser faire cet homme. Il va le laisser insulter. Au chapitre 16, verset 13, David et ses gens continuèrent leur chemin. Shimaï marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Shephim, et là ils se reposèrent. Et pourquoi qu'il l'a laissé faire? Regardez verset 11. David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vue à ma vie. Il parle d'Absalom. À plus forte raison, ce Benjamite, donc c'est Abishai, laissez-le qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Laissez-le, l'Éternel lui a dit de me maudire. Ben oui, déjà Nathan lui a dit, tu vas le payer cher. Donc, il va le laisser faire parce qu'il sait qu'il faut aller jusqu'au fond du panier, ramasser la colère de Dieu. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ne prenez pas Dieu à la légère. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est dit que Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. C'est pas parce qu'on est chrétien que peut-être on doit tous être gentils chrétiens. Soyons pas innocents, nous avons un grand Dieu, saint et redoutable. Ne jouez pas comme certains le font beaucoup dans notre société, enfin ceux qui se disent encore chrétiens, Dieu est amour. Alors il passe l'éponge sur tout, allez hop, un coup d'essuie-glace, il n'y a plus rien sur le carreau. C'est de la folie que de prendre Dieu pour un homme. Dieu est saint. Dieu est riche en bonté, lent en miséricorde. Il bénit jusqu'à 1000 générations ceux qui le craignent. Il punit jusqu'à 3 ou 4 générations ceux qui commettent l'iniquité. Et il ne tient personne pour innocent. Exode chapitre 34. Il ne tient personne pour innocent. Nous ne devons pas jouer à l'innocent. Ça ne marchera pas avec Dieu. Tout ce que nous avons péché, il faut le confesser à Dieu. Et il faut parfois emporter la peine de ce péché-là, son amertume, jusqu'au bout, jusqu'au moment où le Seigneur nous relève. Celui qui s'abaisse sera élevé. La Bible n'est pas un livre de lâcheté, elle est un livre de responsabilité. Notre péché est dangereux, les amis, très dangereux. Il peut nous faire souffrir des dizaines d'années, faire perdre des belles années de notre vie parce que nous avons voulu plonger par plaisir, par arrogance, dans des choses que Dieu ne voulait pas. Continuons dans le deuxième livre de Samuel. Nous étions donc au chapitre 16 et nous avons vu que cet homme l'insulte et que David le laisse faire parce qu'il sait que de toute manière, si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Dieu veut lui mettre des gifles et il les ramasse. Hein? Rappelez-vous, pour l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, quand un démon le soufflait, lui jette des gifles, Paul a supplié d'arrêter ça. Et Dieu lui a dit, non, c'est dans ta faiblesse que je me glorifierai. Afin que je ne m'enorgueillisse pas. Ben oui, c'était un dur, hein, notre cher Saul, devenu Paul. Un dur, hein. Il a été jusqu'à organiser des arrestations, des interrogatoires, et le meurtre d'Étienne, etc. Quelque part, Dieu veut nettoyer le pot jusqu'au fond dans tous les coins, quand on lui appartient. Et faites attention pour chacun de nous. Parce que aucun de nos péchés ne doit rentrer en présence de Dieu un jour. Mais si nous sommes appelés, nous sommes aimés, et qu'il y a une correction de Dieu sur nous, dites merci au Seigneur. Rendez-lui grâce, parce qu'il est juste et bon. Il est fidèle. Et sa colère est juste sur moi. Et quand c'est fini, je peux marcher, soulagé. C'est comme un enfant qui a fait le tordu dans une maison ou en classe, qui est puni par ses parents ou par ses professeurs. Quand il a fait sa punition, il est soulagé, il est content. Il se remet en face de ses parents ou de son maître, de sa maîtresse, avec la satisfaction d'avoir accompli la punition. Moi, j'ai vu souvent en prison, en visitant des prisons, les prisonniers qui avaient purgé leur peine, qu'on n'avait pas écourtée, sortaient de manière digne. Ceux qui avaient pris les combines avec les avocats et tout le reste, c'est des menteurs, des faux témoins, qui étaient sortis plus tôt, et ils étaient encore plus tordus en sortant, ils retournaient en prison, et ils avaient encore plus de punitions. Et j'ai remarqué ça chez certains prisonniers, ils étaient heureux, je paye ce que je dois payer. J'en ai connu comme ça. Et donc quand je les avais dans le petit parloir en face de moi, je voyais tout de suite à quel lascar j'avais affaire. Un qui veut me mettre dans sa poche pour échapper à la sanction qu'il méritait et qui va utiliser ma naïveté des lettres, etc., des influences, ou quelqu'un qui est là et je peux ouvrir la Bible avec lui, aller vers Dieu, parce que le reste, il l'accepte. Sa punition, il l'accepte. J'ai vu ça en prison et je vous dis franchement qu'à un moment donné, ben, on n'est plus dupes, hein, quand on a fait le tour un petit peu de tous ces gens. C'est la même chose pour moi devant Dieu. Quand je me mets à ma table, que je lis ma Bible ou que je viens ici, c'est la même chose. Je suis devant Dieu. Lequel suis-je devant mon Maître et mon Seigneur et devant mon Père? Qui suis-je devant mon Dieu? Suis-je vraiment l'enfant qu'il doit corriger et conduire dans la vérité? Ou suis-je l'enfant tordu qui chipote toujours avec son autorité et qui s'expose encore à des détriments et qui va passer sa vie dans les détriments? Parce qu'il les sème lui-même, c'est pas Dieu. Mais il les mérite. J'ai pris ce sujet, pourquoi? Parce que je pense que le temps du Seigneur est court. L'iniquité est grandissante sur cette terre, le temps du Seigneur est court. Et que tout chrétien aujourd'hui qui entend parler de Dieu doit savoir être prêt, avoir de l'huile dans sa lampe. Avoir de l'huile dans sa lampe, c'est voir ce qu'on est, c'est voir Dieu comme il est, c'est se mettre en ordre avec le Seigneur. Pas d'huile dans la lampe, on a la Bible, on a la religion, mais on ne voit pas ce qu'on est, on ne voit pas qui est Dieu, on ne voit pas où on doit mettre les pieds ou ce qu'on ne doit pas faire. On mélange tout. Et on est, bien sûr, loin de Dieu. Regardons, continuons, dans le deuxième livre de Samuel. Il y a, bien sûr, beaucoup de choses à lire, mais Absalom est quelqu'un de triste, au fond. Même s'il est méchant, même s'il a apparemment la victoire sur David, il souffre beaucoup de son propre péché et de la situation qu'il vit avec son père. Hein? Et donc, à un moment donné, quand la bataille tourne court pour lui et qu'il est dans une forêt, il a tellement une grande chevelure qu'il se fait prendre dans les épines d'un térébinthe. C'est plein d'épines, hein, comme ça, hein, c'est énorme. Hein? Et donc, il va rester pendu. Et bien sûr, l'officier responsable de l'armée va venir avec 3 javelots, il va lui planter dedans, il va le tuer. Mais, chapitre 18, verset 9, « Absalom se trouva en présence des gens de David, il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise sous térébinthe. » Et demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Alors bien sûr, un peu après, arrive Joab. Verset 14, Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Il prit en main 3 javelots, les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Il l'achève, quoi. Oui, il l'achève. Et pourtant, les amis, il s'est passé quelque chose avant. C'est que avant d'envoyer ses hommes à la bataille, David, il dit à tous ses hommes, et donc à cet officier aussi, « Faites attention, mon chéri, à mon jeune Absalom. » Chapitre 18, verset 5. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Ittai, « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Donc Absalom vient de diviser le peuple. Il vient d'humilier toutes les concubines et les femmes de David. Il vient de pousser le peuple de Dieu à offenser Dieu. Et regardez, nous voyons ici que David, il n'ose pas dire « Ne le tuez pas, je vous donne l'ordre de ne pas le tuer. Sinon, si vous le tuez, je vous tue moi-même. » Il n'ose pas dire ça. Pourquoi est-ce qu'il n'ose pas dire? Quand j'ai lu ce verset, j'ai beaucoup cherché à comprendre. Et il n'ose pas le dire parce qu'il sait, par Nathan, nous l'avons lu tout à l'heure, qu'il est déjà châtié en Absalom. Il est châtié en Absalom. L'iniquité d'Absalom est un des châtiments de David pour la mort d'Uri, pour l'adultère avec Bathsheba. Et ce n'est pas fini. La mort d'Absalom, déjà Dieu l'avait annoncé. Et donc, il n'ose pas dire réellement ce qu'il sait. Il n'ose pas dire à ces hommes réellement ce qu'il sait. Et c'est une parole très douce, très molle, pleine de dépression, pleine de commisération. C'est quelqu'un qui est déjà, qui a les jambes sciées par la douleur de son péché.
Partagé.
Il est plus que partagé, il est confondu, il est confus. L'amour de moi doucement avec le jeune Absalom. Et pratiquement, l'officier, lui, qui ne fait pas de sentiments, descend le fils. Et bien sûr, vous voyez à quel point la mort d'Absalom fait souffrir David. Pourquoi le fait souffrir David? Plus tard, il y a Adonija aussi, le fils d'une autre femme. Pourquoi? Parce qu'il souffre de la mort d'Absalom, mais Absalom est mort tout compte fait à cause de lui. Il souffre aussi pour sa culpabilité. Et il souffre pour la transgression et la sévérité de Dieu. Et oui. Ah, ça fait, c'est pas un film qui dure des heures dans la conscience de David. C'est comme un éclair, il sait très bien qu'il a joué avec le grand Dieu, le roi des rois, le saint des saints d'Israël. Alors, il est évident que c'est une leçon pour nous. Plus on connaît le Seigneur, plus on a été enseigné, plus on reçoit de la part du Seigneur. Le diable est tellement rusé, mais pas seulement le diable, nous-mêmes, notre péché a tellement de force qu'on peut s'amuser à faire le contraire de ce qu'on sait. Ça s'appelle l'abomination, l'iniquité. Et là, on s'expose à quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de notre témoignage dans ce monde. Quand on est enfant de Dieu, on reste enfant de Dieu et on doit mener notre vie avec amour. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais surtout, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il y a des tas de dieux. Il y a l'argent, il y a le compte en banque, il y a la voiture, il y a la maison, les vêtements, la réputation, et il y a tout ce qui est en dessous de la ceinture. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Et donc, il est clair que Dieu demande, comme il l'a dit dans Lévitique, soyez saints comme je suis saint. Quand on se présente vers le Seigneur Jésus pour une vie chrétienne, on tombe sous cette requête de Dieu. Soyez saints, c'est un ordre, comme je suis saint. Et Paul n'avait pas peur de dire « ôtez le méchant du milieu de vous ». Ni les adultères, ni les efféminés, ni les ravisseurs, ni les ivrognes, ni les lâches, ni les abominables, ni les adultères n'hériteront du royaume de Dieu. Paul a eu le courage de le dire. Ça paraît incroyable aujourd'hui de dire des choses pareilles. C'est tellement dur. Ça paraît tellement intolérant et tellement méchant. Mais c'est toujours le même Dieu. L'Épître aux Hébreux dit « Jésus-Christ est le même Dieu hier, aujourd'hui et demain ». Donc, vous devez, il faut quand même, évidemment, nous tourner vers notre Seigneur, avec une certaine crainte. Et donc, quand, dans le deuxième livre de Samuel, on va construire, bien sûr, un temple, hein, un beau monument à Absalom, au chapitre 18, verset 18. « De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. » Donc on le voit, hein, quand on est à Jérusalem, il n'est pas loin des murs de la muraille. « Car il disait, je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Il donna son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui « Monument d'Absalom ». On le voit, hein.
Il est toujours.
Ah oui, c'est incroyable. C'est quand on tombe dessus, on se dit... Et on lit la Bible. Et c'est pas petit, hein. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Alors, il faut faire attention, les amis. C'est pas le tombeau qui répare tous les péchés, hein. C'est pas les beaux monuments et les belles fleurs sur les tombes, hein. Et même les prières des gens. Alors, lisez la suite, vous verrez. Mais Dieu a fait une promesse tout de même. Il a fait une promesse. Regardons dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7. Dieu dépasse le péché des hommes. Dans sa grâce, il dépasse nos péchés. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dit Paul. Et fort heureusement déjà pour lui et pour nous aussi. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, versets 1 à 17. Nathan va dire, au verset 4, la nuit suivante, verset 4, « La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ?» Alors, un peu plus loin, au verset 11, « L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Verset 7. Celui qui bâtira une maison en mon nom, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alors, regardez, verset 18, le roi David alla se présenter devant l'Éternel, dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Regardez, la richesse chez David, c'était quand même, à un moment donné, de tout mettre à plat. Vous savez, dans une famille, il y a des enfants, on leur met des fessées, ils ne se corrigent jamais. Ils ont la tête dure comme de l'os. Ils continuent. Et plus tard, quand ils sont plus âgés, on voit ce qu'ils sont. Ils s'étaient opposés farouchement à l'éducation qu'on leur donnait et aux lignes de conduite qu'on leur donnait. Puis il y en a des autres, ils ont une punition et tout. Et puis on constate que l'enfant s'amende et il met tout à zéro. Et vous savez, avec ce type d'enfant, après, on est amis avec. Les parents sont amis avec cet enfant-là. Ça dépasse le grade du père et de l'enfant. On est dans une proximité très profonde au niveau moral et spirituel. Et David, c'est ça sa richesse. Alors, regardez verset 19. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Donc, les temps à venir, si vous avez du temps, lisez le psaume 89. Vous allez voir que la maison de l'Éternel, c'est celle que Christ, roi, établira. Ok ? Au verset 24, « Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. » Donc Israël, quoi qu'il fasse comme désobéissance, et il est spécialiste de la désobéissance, je vous le dis, au point que dans l'Apocalypse, l'église de Philadelphie amène à la conversion des Juifs, et c'est appelé synagogue de Satan. C'est dur quand même. Et pourtant, il n'y a pas de racisme sur les Juifs dans la vie de Jean, il est Juif lui-même, ni de Pierre, ni de Jacques, etc., des apôtres. Donc, maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Donc, David se réfère à l'autorité sainte de Dieu et à son alliance. Il sait que l'alliance de Dieu et l'engagement de Dieu pour Israël et les promesses que Dieu lui fait le dépassent. Et que si son péché, sa crasse, je vais dire, fait 1 mètre de haut, la grâce de Dieu est aussi haute que l'Everest. Mais Dieu n'a quand même pas rigolé avec son péché. Ok ? C'est ça qu'il faut savoir. Verset 26. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées et le Dieu d'Israël. Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Sur quoi il se repose ? Ah, c'est fini de se reposer sur lui. Il est trop tordu. Il a vu ce qu'il était. Et Dieu lui a bien montré. Non, il se repose sur la vérité, sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ doit se reposer sur la parole de Dieu, sur la vérité dans la parole de Dieu. Les chrétiens autosatisfaits d'eux-mêmes, centrés sur eux-mêmes, ne sont pas en ordre avec Dieu. Et tout chrétien qui aime plus son péché que la parole de Dieu est en abomination aux yeux de Dieu. Il faut se mettre au bas, comme David a fait, pour être ensuite élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé, dit Jésus. Alors, c'est fort important tout ce comportement qu'on trouve chez David, parce qu'il a un peu le témoignage de ce que nous sommes. Et donc, vous savez, faites attention avec les yeux, Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2 Samuel 11. Un soir, David se leva de sa couche. Ben, il ne dormait pas. Comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. On ne dit pas le reste. Et David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien, etc. Par les yeux. À la télévision, ou en voiture, ou je ne sais pas où, par les yeux, ou dans un magasin, par les yeux, nous sommes invités à trahir notre Dieu. Ensuite, Jésus a dit, il vaudrait mieux que tu rentres en enfer sans ton œil, à cause de ça. Ben oui, pour ne pas être dans le cas de David. Ou ta main, parce que hop, la main, on fait quoi avec la main Donc, vous voyez que Dieu a donné des mesures, faites attention, l'usage de notre corps, l'usage de nos yeux et de nos mains, est sacré, sacré. Pauvre David, il a beaucoup souffert, n'est-ce pas? Alors, si vous regardez bien, ce péché qui tombe sur Absalom, sur Adonija, vous le voyez, c'est un homme de sang. À un moment donné, il est chez les... Parce qu'il a peur de Saül, il est chez les Philistins. Et chez les Philistins, pour être bien avec eux... Et il baffe, il fait toutes sortes de choses pour se faire passer pour un débile. Et le roi, le laisse tranquille. Et puis après, il lui donne, ce roi philistin, il lui donne une ville. Mais comme David a des hommes, et pas que des petits saints, il y a des gens odieux avec lui, ils vont dans le sud, dans le désert du Negev, attaquer des villages, et pour que personne ne vienne rapporter au roi philistin ce qu'ils ont fait, ils laissent personne vivant, ils massacrent tout le monde. Ils piquent tout, les troupeaux, les femmes, tout le bazar, et... Mais c'est une horreur. C'est une horreur. Et ça, ça a duré presque un an et demi. C'est pas deux jours, trois jours. Et donc le roi des Philistins, ah, quel brave David, quel brave David, il est gentil, je ne me suis pas trompé sur lui. Bon, vous voyez à quel point David a pu vivre dans l'imposture. C'est extrêmement grave. En plus des femmes qu'il avait, il fallait la femme d'un de ses meilleurs hommes, en plus il fallait encore faire du massacre organisé, comme Daesh, État islamique, hein, c'est pas mieux. À un moment donné, on voit sur les fils d'Amon, hein, ils prennent la ville, ils passent les herses, les outils dessus. Alors, vous voyez, que ce soit des hommes aimés par Dieu ou des ennemis de Dieu, regardez de quoi on est capable. Qu'est-ce que l'Europe a fait? Et qu'est-ce qu'elle fait encore? Qu'est-ce que nos peuples chrétiens font? Il faut s'amender. Il faut s'amender durement. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Salomon a continué 1000 femmes. Salomon a eu une cavalerie, des chars. C'était interdit par Dieu de mettre sa confiance dans des centaines, des milliers de chars, de chevaux, de cavaliers. Il fallait mettre sa confiance dans l'Éternel pour défendre Israël. Et Salomon a été extrêmement dur pour son peuple. Et puis il a accueilli la reine de Saba, il lui donnait tout ce qu'elle voulait. Ça veut dire tout, hein? C'est bien clair, c'est bien tout. Et puis, il a fait des temples pour les divinités de ses femmes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Agija de Silo, un prophète, en lui disant, maintenant Dieu va t'envoyer des ennemis. Dieu va t'envoyer des ennemis. Trois hommes se sont levés dans le peuple pour être l'ennemi de Salomon. Salomon n'a pas pu les éliminer. Et un a été entraîné 10 tribus en révolte. Pire que ça, il a entraîné les hommes à ne plus aller prier Dieu dans le temple de Jérusalem. Pire que ça, ces 10 tribus sont tombées sous la sanction de Salmanazar, Sennachérib, en 722, a été conquis et déporté. Et pire que ça, c'est qu'on voit les 2 tribus de Juda et de Benjamin ont eu du répit pour se convertir, ont eu des prophètes comme Jérémie, ne se sont pas repentis et ont été déportés en Babylone. Tout d'un point de départ du péché de David et de Salomon. Chers amis, vous voulez fonder des familles chrétiennes, vous voulez avoir des enfants, d'abord que le cœur soit propre. La vie soit propre, parce que vous bâtissez pour la catastrophe. Vous bâtissez pour un avenir pourri, si vous n'êtes pas fidèlement attaché au Seigneur, à sa parole, à sa sainteté. Ne vous y trompez pas, l'arbre qui veut porter des bons fruits doit être planté dans le bon sol. Aujourd'hui, pour tous les jeunes qui veulent se marier, ou pour ceux qui sont mariés, il faut reprendre les choses comme ça, de manière droite et juste. Et pas faire de l'à peu près chrétien. Ça, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire. Pourquoi? Parce que je pense, quand vous voyez ce qui se passe avec les Syriens, les Irakiens, les décisions de l'Europe, qui montrent bien l'iniquité qui était annoncée dans le livre de Daniel, nous avons un compte à rebours. Et notre église, la petite église ici, comme des tas d'autres, doivent être trouvés propres. Nous devons être dans la richesse spirituelle de l'obéissance à Dieu. La richesse spirituelle de l'obéissance par amour. Là, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 22. Deuxième livre de Samuel, chapitre 22. Vous savez, quand je lis ce texte, souvent je me dis, Seigneur, je te confesse que je ne t'ai pas prié assez aujourd'hui. Je te confesse que je ne me suis pas mis devant toi, devant ta face aujourd'hui. J'ai couru, j'ai fait des tas de choses pour toi, ou pour d'autres, pour la famille, etc. Mais toi, je n'ai pas été avec toi. Je ne t'ai pas mis là, et je ne me suis pas mis tout petit devant toi. Je confesse, Seigneur, que je suis toujours le même depuis que je suis né. J'aime toujours mon péché, et pourtant c'est toi que je dois aimer. Alors je dis, Seigneur, maintenant j'ouvre ta parole et enseigne-moi. Enseigne-moi, purifie-moi. Quand j'ouvre la parole, je suis tombé sur ces textes-là. Je les ai pris pour moi d'abord, avant de vous les enseigner. Deuxième livre de Samuel, chapitre 22, verset 24. C'est une belle prière, c'est le cantique de David, qui est beau à lire. Et au verset 24, regardez bien, j'ai été sans reproche envers lui. Donc envers qui ? Envers Dieu. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Vous vous rappelez tout à l'heure ce que Vincent a lu dans un psaume ? Vous vous rappelez le psaume qu'il a lu ? C'est quel psaume, les amis ? Hein ? 40. Et qu'est-ce que vous avez vu dans le psaume 40 ? Vous vous rappelez pas ? Ah, attendez. Prenez le psaume 40 et vous allez voir. C'est extrêmement important. Au chapitre 40, verset 13, verset 12 et 13. Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Vous avez vu, hein ? C'est pas mis ma perfection, ma parfaite obéissance, hein ? Mon beau pédigré de roi, etc. Mon baptême, ma fréquentation occulte, etc. Non, c'est pas mis ça. C'est ta bonté et ta fidélité qui m'environnent et qui me gardent pour toujours. Alors, verset 13, « Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Je ne puis en supporter la vie. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. » Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Pour les chauves, il y aurait donc des péchés en moins pour les chauves ? Non, pas du tout, les amis. Alors, vous voyez, verset 18, « Je suis pauvre, indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. » Vous savez, quand vous arrivez, vous êtes là, vous lisez ça, vous faites le tour de vous-même. Et vous, ça, Seigneur, c'est pour moi, je l'accepte. Alors on peut me dire « Joyeux anniversaire. » Parce que c'est avec le Seigneur l'anniversaire. À 5 heures du matin, il y a 68 ans, j'ai commencé à sortir le bout de la tête du ventre de ma mère. Et seulement à 5 heures du soir sont sortis mes orteils. Ma mère a manqué de mourir. Qu'est-ce que Noémie m'a dit ? T'es quand même un résistant. Je vais vous dire, j'ai appris à être résistant. Mais résistant de deux façons. Mon péché résiste à Dieu. Oui, et ça je le reconnais. Salopard de péché. Saloperie. Sur lequel je dois toujours me battre. Deuxième chose. Je suis résistant avec Jésus. Je t'aurai. J'ai pas envie d'aller en enfer. Avec Jésus, je t'aurai. Tu n'auras pas la bataille. Tu n'auras la victoire. Résister au péché. Résister. Et c'est clair. Quand on regarde dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, au verset 51, dans ce beau, belle prière, où David, tout compte fait, est quand même formidable, parce qu'on voit que toujours la grâce l'inonde. Et c'est Dieu qui est formidable dans sa vie. C'est pas l'homme. Parce que c'est un petit rat d'égout. Il a triché combien de fois, il a fait des mauvaises choses. C'est la fidélité de Dieu qui est immense. Au verset 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Nous avons un papa dans le ciel qui aime ses enfants et qui a en horreur le péché. En horreur. Donc il faut l'expérience d'une guérison du cœur tous les jours dans notre vie de foi. Il faut l'expérience d'une guérison du cœur, de l'âme, du comportement, de notre attitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, toute ta pensée. Ok ? Voilà notre chemin, il est royal. Il est royal, Seigneur. Nous sommes disposés à être conduit par l'Esprit Saint qui vient en aide à notre faiblesse. Seigneur Dieu, nous sommes disposés à entendre ta parole. Devant toi, Seigneur, nous te disons, parle, ton serviteur écoute. Nous sommes disposés, Seigneur, à entendre ceci. Je suis venu appeler les pécheurs, non pas les justes. Je suis venu visiter les malades, non les bien portants. Seigneur, nous avons un cadeau formidable. C'est ton amour. Et c'est notre abaissement. Notre abaissement est salutaire. C'est considérable d'être humilié devant toi et de perdre la puissance du péché. C'est considérable, Seigneur, d'être devant toi et d'avoir en horreur le péché. C'est considérable, Seigneur, que de savoir que tu es là avec nous pour nous donner la victoire, la réussite de notre vie, l'éternité, la vision formidable de ta personne et des saints, des anges, des archanges, et de voir tous les élus un jour. C'est formidable, Seigneur, de voir qu'un monde, un jour débarrassé du péché et de Satan, sera dirigé dans ta paix, dans ta justice, dans ta vérité. Nous le croyons, Seigneur, parce que tu ne mens pas, tu n'es pas un Dieu menteur. Amen.